Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je suis en compagnie de Maldren.
Salut tout le monde.
Et de Ben.
Salut.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Danganronpa 2. On enchaînera ensuite sur un petit jeu fort sympathique qui s'appelle Rose and the Old Castle of Twilight. Nous évoquerons également un jeu indépendant qui s'appelle Astroneer. On enchaînera ensuite avec une nouveauté du côté de Ark Survival of the Fittest. Un nouveau RPG du côté de Obsidian. Vous savez, je suis une Obsidian War, donc voilà, c'était obligé qu'on en parle. Nous parlerons également du PlayStation VR, et oui, parce que c'était la GDC, hein, ça ne vous a pas échappé, et à la GDC, ils n'ont parlé que de la VR, même si bon, hein, on y reviendra, mais c'était pas forcément super enthousiasmant. Du côté de Nintendo, on parlera d'un problème d'optimisation sur Hyrule Warriors Legend. Continuons avec Sony, qui nous fait, d'après les rumeurs, sa New 3DS à lui. Et enfin, on terminera avec Microsoft. Microsoft qui a lancé un pavé dans la mare cette semaine pour le jeu online cross-platform. Allez, on commence donc par Danganronpa 2. Il y a une date de sortie qui a été annoncée sur PC. Donc Danganronpa 2, à mon grand étonnement, parce que il faut savoir que le premier ne s'est vendu d'après Steam Spike à 24 000 exemplaires. Eh bien, Danganronpa 2 sortira chez nous sur Steam le 18 avril. Voilà, voilà. Ça me fait plaisir parce que pour le coup, autant le premier je l'ai fait, donc j'avais plus acheté le premier par militantisme, dirons-nous, pour montrer qu'il y avait un intérêt sur PC qu'autre chose. Et donc là, il y a la suite qui débarque le mois prochain, et celle-là, donc je ne l'ai pas faite. Donc voilà, ça m'arrange d'autant plus que bon, il y a quand même pas mal de textes à lire, etc. Et que c'est quand même plus agréable de lire du texte sur un écran d'ordinateur que sur une toute petite Vita. Rien à dire messieurs, j'enchaîne.
Ouais, ouais, tu peux enchaîner pour le coup, moi je connais pas du
moi
tout Danganronpa.
Ok, donc nous allons maintenant évoquer un petit jeu qui ma foi a l'air fort bien, ça s'appelle Rose and the Castle of Twilight. En gros vous prenez Limbo, à la place du gamin un peu chelou vous mettez une petite fille toute choupie, tout kawaii, et vous avez Rose and the Castle of Twilight. Alors, honnêtement, ça a pas l'air de réinventer la roue, hein. Je veux dire, c'est un jeu d'énigmes, tout simplement. Mais je surkiffe l'ambiance. Et surtout, oh mon dieu, elle est trop choupi-choupi. Ah, je fonds. Ah non, mais expression copyright, hein. Elle est trop mignonne, t'as envie de la croquer. C'est... Donc bon, je fonds, voilà. Donc, évidemment, ça fait un peu glauque, du coup, parce que je rappelle, hein, Limbo, c'est quand même un jeu où t'as un gamin qui crève des façons les plus horribles possibles et imaginables.
Oui,
quoi.
Je confirme.
Ouais. Ça donne un cachet particulier au truc, mais moi, enfin, je suis complètement... Enfin, déjà, quand tu vois la petite fille bouger et tout, elle est avancée comme ça, enfin, c'est trop... C'est mimi, quoi. Enfin, j'adore. Et c'est là, quand tu vois ça, que tu dis, mon Dieu, si les vrais gamins étaient comme ça, aussi mignons. Mais non, en vrai, c'est des horreurs, mais voilà. Juste pour l'anecdote, en fait, il s'agit d'une suite spirituelle à un jeu qui est sorti sur console portable qui s'appelle The Firefly Diary. En fait, c'est un jeu dans la même veine qui va sortir le mois prochain sur Steam, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vous incite à y jeter un œil.
C'est dans la même veine et le même développeur ou pas du tout?
Oui, c'est édité par Nice America et c'est Nippon Ichi Software, donc ceux qui ont fait les Disgaea, qui s'occupent du truc.
Ok.
Alors, on va maintenant parler d'un jeu indépendant qui va, je pense, intéresser mes deux comparses pour le coup, hein. Parce que là, on était plutôt dans mon univers, n'est-ce pas, des trucs manga avec des trucs tout choupi et tout ça, et des étudiants qui s'entretuent entre eux. Hein. Non, je ne suis pas du tout glauque comme personne, tout va bien. Donc, on va parler de Astroneer. Alors, Astroneer, qu'est-ce que c'est? De la veine des développeurs, c'est un jeu d'exploration spatiale. L'idée, vraiment, c'est que vous jouez un astronaute et qu'il va falloir simuler un peu qu'est-ce que c'est explorer, la recherche de ressources, tout ça. Donc, en gros, vous arrivez sur une planète et vous devez tout de suite trouver des ressources parce que vous avez besoin d'énergie, en fait, tout simplement, pour pouvoir alimenter votre combinaison qui marche avec de l'électricité, etc. Enfin, bref. Vous pouvez poser des lignes électriques un peu partout sur la planète. Parce que du coup, en fait, si vous vous éloignez, il faut absolument, par exemple, que vous ayez une source d'énergie, et derrière, vous pouvez poser des lignes électriques qui vont s'étendre sur plusieurs kilomètres, et par exemple, vous pouvez vous raccorder à la ligne électrique pour continuer à alimenter en électricité votre combinaison. Si jamais il y a plus, votre combinaison n'a plus d'énergie, elle arrive à zéro, et vous respirez plus, et vous crevez. En gros, c'est vraiment de la survie pure, quoi. Il y a, par exemple, une tempête de sable qui va se déclencher, et ce qui est intéressant, je trouve, pour le coup, c'est que s'il y a une tempête de sable, c'est pas genre, tu vois, il y a un truc qui s'affiche à l'écran et tu vois rien. Non, c'est genre une tempête de sable et t'as tout ton matos qui s'envole et qui est éparpillé aux quatre vents, quoi.
Ouais, sympa.
Donc j'imagine qu'on pourrait peut-être mettre en place après un système justement pour se protéger de ça, etc. Donc du coup, comment tu construis ta base pour prévenir ce genre de choses, de catastrophes naturelles, etc. Bref, ça a l'air plutôt intéressant et en plus, bon, c'est généré procéduralement. Alors attention, c'est pas du No Man's Sky non plus, hein, parce que pour le moment, les mecs sont plutôt modestes. Hein. Ils parlent plutôt de système solaire que de galaxie à la No Man's Sky, si vous voyez ce que je veux dire.
Ils sont quatre déjà. Hein.
Oui, donc... En tout cas... Le concept a l'air intéressant et du coup je me retourne vers vous amateur de jeux de survie. Hein. Je suis désolé, c'est votre étiquette maintenant, monsieur. Est-ce que ça vous intéresse ?
Bon, moi s'il y a pas de dinosaures, ça m'intéresse pas de toute façon. Donc vas-y Mordran.
Moi ce qui j'ai été très impressionné par l'outil de terraforming en fait.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça a l'air vachement
avancé. Est-ce que tu
peux
expliquer un peu le concept, Mandrane?
En fait, le concept c'est que le jeu est donc évidemment basé sur du voxel, sauf que c'est du voxel comment dire, qui est un peu lissé, c'est-à-dire que c'est pas du voxel à la Minecraft où tout va être en cubique. Mm-hmm. C'est en gros le voxel est pris comme un cube qui peut être modelé sous une forme spécifique en fait, donc c'est-à-dire que la colline aura véritablement là une tronche d'une colline et du coup l'outil de terraforming en fait c'est en gros un pinceau avec un rayon d'action et quand tu cliques en fait ça va creuser à l'intérieur du sol et donc tu vas pouvoir vraiment modeler le monde comme tu le souhaites en fait et donc visiblement pour miner c'est quand même plutôt pratique pour creuser des cavernes etc. Ça a l'air quand même assez facile d'accès et tu peux faire très vite des choses sympathiques avec quoi. Donc moi j'ai trouvé ça c'est la première chose qui m'a attrapé l'œil en fait avec ce jeu. Au-delà du fait qu'il y a certaines choses qui sont quand même assez jolies, notamment les couchers de soleil et levers de soleil qui sont assez impressionnants.
Ouais, j'allais dire à peu près la même chose parce que c'est vrai que je suis pas un adepte de construction etc. En fait, dès que c'est entre guillemets un peu trop compliqué ou qu'il faut beaucoup crafter ou beaucoup miner pour pouvoir construire, c'est pas ce que je préfère faire. Typiquement dans Starbound, je trouvais le jeu très sympa, mais je trouvais ça trop long en fait de miner etc. Et là, c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus accessible et assez rapidement. Enfin, en tout cas de ce qu'on voit dans la vidéo, assez rapidement, on a la possibilité de faire des trucs assez évolués, ne serait-ce qu'en terraforming. Et ça, je trouve ça plutôt malin. Ouais, pour les joueurs qui sont pas forcément adeptes de ça et qui veulent un jeu qui mélange un peu voilà la découverte, enfin l'exploration. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Ouais.
Ce qui me rassure aussi, c'est que visiblement, c'est des développeurs qui vont à l'essentiel. C'est-à-dire que, par exemple, dans la vidéo, ils expliquaient bien que c'est un jeu où ils n'avaient pas du tout mis de texture, en fait. Ouais. Exprès, parce que les textures, justement, c'est quelque chose qui demande énormément de travail. Et du coup, bah, ils en ont fait une force parce que le jeu a rendu vraiment très particulier, quoi. Mm-hmm. A rendu très low poly, tu sais, mais très lisse, quoi. C'est très propre. Et franchement, ça rend super bien. Alors, après, ma crainte, personnellement, c'est quid de la jouabilité sur le long terme. Parce que, je veux dire, c'est pas non plus un hasard si ces jeux sont énormément, en général, basés sur la construction.
Oui.
Parce que la construction, c'est ce qui permet de t'exprimer, entre guillemets, et c'est ce qui fait que sur le long terme, tu peux faire plein de trucs. Et pour le coup, j'ai un peu peur qu'il soit très limité à ce niveau-là. Alors pour le moment, attention, le jeu est en pré-alpha, on n'en a pas vu grand-chose, finalement, quoi. Mais je me dis, si l'aspect construction est pas poussé, j'ai peur finalement qu'il ne trouve pas son public sur le long terme, quoi.
Ouais, mais c'est aussi pour ça qu'on se pose plein de questions sur No Man's Sky, puisque No Man's Sky n'a pas l'air d'avoir ce pan-là, en fait, de construction. Donc après, sur Astroneer, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est simplement l'usage de l'imprimante 3D, qui est en gros la table de craft in-game, et qui fonctionne plutôt pas mal, en fait. Tu mines un certain type de ressources, en fait, avec ton outil de terraforming, et c'est avec ces choses-là, en fait, que tu as miné, que tu craftes. Ça a l'air plutôt pratique, alors il n'y a pas de resetting, comme il peut y avoir dans Minecraft, par exemple, mais après, moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Le seul truc qui m'a gêné, moi, c'est la maniabilité qui a l'air chelou sur la petite bagnole, l'espèce de Mako d'Astronia.
Toi aussi, ça t'avait pensé à ça.
Ouais.
Bref, dans tous les cas, c'est un jeu qu'on va surveiller parce que je pense que le concept peut aller très loin. Surtout en multijoueur, enfin s'il y a plusieurs planètes, tout ça, je pense que l'aspect exploration peut être vachement plaisant.
Ouais.
Je vous mettrai un lien vers une vidéo de 30 minutes à peu près, mais je vous incite aussi à aller regarder le trailer parce que le trailer permet aussi de se faire une idée sur la variété des environnements, en fait, parce que la vidéo 30 minutes, c'est une planète très lisse, très plate, enfin il y a pas vraiment de relief, et sur le trailer on voit vraiment qu'ils ont préparé des biomes qui sont plutôt variés, finalement, quoi, avec du vrai relief, etc.
Ouais.
Je trouve qu'il est assez chouette aussi en termes de physique. Par exemple, tu parlais de l'outil pour creuser. Si tu creuses là où il y a un arbre, l'arbre va se déraciner, tu vois. Enfin, contrairement à pas mal de jeux où finalement, t'as l'arbre qui reste raide comme un poteau quand tu découpes la racine. Enfin, c'est très bizarre. Donc, vraiment, ça a l'air très très bien fait et j'ai hâte de voir la suite. Bon. Ben, on va rester dans l'univers de la survie, hein. Vous êtes irrécupérables, messieurs. Mais cette fois, on va parler de quelque chose d'un peu différent, hein, puisqu'on va parler de Ark Survival of the Fittest, mon cher Ben, qui est un peu le, comment dire, Hunger Games de Ark, j'ai envie de dire.
Ouais, exactement. Je crois qu'on en avait déjà un peu parlé lors de certains podcasts, de ce mode, en fait, qui était à l'époque donc un mode d'Ark, qui reconstruisait un mode Hunger Games dans l'univers d'Ark, avec donc une grande arène. Enfin, on l'avait déjà décrit. Et là, donc, cette semaine, on a eu la bonne surprise. Le studio qui fait Ark a annoncé qu'il sortait ce mode-là en mode standalone et gratuit.
Ah oui.
En plus de ça. Donc, voilà, on l'avait déjà évoqué ici que les gens de Ark faisaient les choses plutôt bien en termes de com, en termes de, voilà, tout ce qu'ils ont fait autour du jeu, les mises à jour, etc. Et là, pour moi, il frappe encore un grand coup parce que c'est un mode qui est quand même vachement joué. Et là, de le mettre en standalone, ça va permettre d'attirer vachement de gens et d'accéder à un peu plus d'e-sport, on va dire, que ce que ça l'était à présent, quoi.
Mais surtout, ça fait un formidable produit d'appel, quoi.
Ah bah oui, bien sûr. En plus de ça, non, mais c'est malin de le faire, parce que ça va plaire aux joueurs, et puis ça va leur faire des ventes en plus, forcément. Hein. Ils font pas ça pour rien non plus, mais c'est très malin.
T'as tout mais à fait raison quand tu parles du produit d'appel, excuse-moi tiens, c'est que en fait quand tu joues à Survival of the Fittest dans la nouvelle version standalone, tu vas pouvoir gagner des skins que tu vas pouvoir transférer dans Ark normal, en fait. Donc voilà, c'est vraiment genre, voilà, c'est très malin, très très malin.
Alors après, je sais pas si vous avez regardé un peu, est-ce que vous pensez que ça peut prendre en termes d'e-sport ce mode, ou parce que moi je vous avoue que j'y ai pas du tout touché, j'ai pas du tout suivi, et je sais pas du coup ce que ça vaut, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment une communauté qui est organisée autour de ce mode là est-ce que vous pensez qu'en termes d'e-sport peut y avoir vraiment un truc, ou...
Alors moi j'ai regardé plusieurs streams, en fait, sur Survival of the Fittest. Des streams français, des streams anglais.
Déjà, est-ce qu'il y avait du monde, hein?
Il y avait pas mal de monde, ouais. Bah, lors de l'event d'annonce du standalone, en fait, il y avait, je crois que c'était 10 000 personnes en tout sur les différents streams. Donc, bon, c'est pas dégueulasse.
Ça va, c'est respectable.
Pour un premier pied dans l'e-sport, ça reste pas dégueu. Après, ce que je regarde surtout, c'est le côté impressionnant de ce qui se passe à l'écran, en fait. Et pour l'instant, alors, ils ont bâti quelques outils pour les streamers, pour les observateurs, en fait, pour rendre la chose un peu intéressante. Mais le truc, c'est quand t'as une soixantaine de joueurs assez différents et disséminés sur la map, c'est toujours un peu compliqué de voir exactement où l'action est. Faut aussi rappeler que Ark Survival Evolved, c'est un jeu qui est pas super optimisé, qui met à genoux certaines configurations. Donc il faut, il faut quand même être un petit bémol sur le côté, oui, tout le monde va y jouer maintenant. Mais sur le côté e-sport, moi je pense que le problème, c'est qu'il y a pas vraiment 15 000 stratégies à mettre en place sur Survival of the Fittest, en fait. C'est-à-dire que t'as les mecs qui vont rusher les dinosaures, qui vont essayer d'avoir une armada de dinos pour se protéger. Et puis t'as des mecs qui vont rusher la techno plutôt.
D'accord.
Et j'ai découvert qu'il y avait une troisième option dans justement l'event d'annonce. Et donc c'est le même mec qui a gagné les trois parties différentes sur l'event d'annonce, en fait. Et le mec, à chaque fois, il faisait la même stratégie. Il tame un pteranodon. Il va choper le dernier survivant, en fait. Et donc là, en fait, il le prenait. Il s'envolait avec le pteranodon. Il quittait la zone. Il attendait 10 secondes. Il le lâchait. Et si jamais le survivant adverse réussissait à re-rentrer, bah, il le rechopait et il mourait à l'extérieur de la zone. Donc c'est vraiment la tactique de pute qui est pas forcément bien visuelle quand je la raconte comme ça, mais j'ai trouvé ça impressionnant. Et je me dis que si tout le monde fait ça, en fait, ça va plus être très intéressant. Le final stand-off entre les deux derniers survivants, ça peut tuer un peu l'intérêt du combat final, quoi.
J'ai envie de dire, c'est comme tous les jeux multi, va y avoir l'équilibrage.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, c'est des failles qui sont encore dans le jeu. Rappelons que c'est encore le jeu et toujours pas sorti en version finale.
Voilà.
Je pense qu'ils ont encore pas mal de choses à équilibrer, à adapter. Mais voilà, typiquement, j'espère, en tout cas, c'est le genre de choses qu'ils vont corriger. Il y a quelques mois, il y avait eu pareil un event organisé par je sais plus quelle boîte. Enfin bon, où il y avait un vrai prix à gagner, du cash. Et où il y avait donc toutes les grosses teams qui avaient participé. Et moi, je m'étais vraiment régalé à regarder. Alors que je suis pas du tout fan d'e-sport, franchement, je regarde pas les autres jouer à part les gens que je connais, et en fait, il y en a qu'un que je connais qui stream et il est là dans le podcast. Donc, ça se limite, c'est assez limité. Puis, généralement, quand il stream les jeux auxquels je joue, donc, c'est, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'avais trouvé, à l'inverse de toi, Mordane, qu'il y avait pas mal de teams différentes qui adoptaient des stratégies différentes.
Je parle du FFA, donc le chacun pour soi.
Mais ah oui, d'accord.
J'allais dire après, en team, c'est beaucoup plus intéressant.
Exactement, ouais, parce que moi, voilà, on peut faire donc ce mode-là, enfin ce stand-alone maintenant, en mode 1 contre tout le monde, ou alors par team de 2, 4, 6, je crois que c'est ça. Je crois pas que ça aille plus, enfin après, bon, c'est suivant les tournois. Mais c'est vrai que moi, j'avais regardé et j'avais trouvé ça vraiment sympa avec les teams contre teams. Parce que là, du coup, voilà, les stratégies, c'est sûr, ça se limite entre guillemets à soit tame beaucoup de dinos, soit faire avancer la techno en minant, etc. Mais même dans le tame de dinos, il y en a, moi j'avais vu une team française notamment qui domptait que des singes, et qui du coup, ils sont assez résistants, ils peuvent se déplacer vite avec, ils allaient super loin avec. Il y a ceux qui préfèrent tame des gros dinos, il y a ceux qui préfèrent tame plein de petits dinos, et en cas de souci, ben, ils les laissent se battre et eux, ils fuient, enfin, il y a tout un tas de stratégies différentes, et moi je m'étais vraiment régalé à regarder, quoi. Donc je pense que pour l'e-sport, mis à part ces équilibrages qu'il doit faire, c'est un jeu qui peut prendre. Bon, moi j'aime bien le style de jeu à l'origine, donc c'est vrai que je suis peut-être pas du meilleur avis, mais je pense que c'est le style de jeu qui est pas forcément fait aujourd'hui en e-sport énormément, et c'est, voilà, je pense que ça peut prendre.
À savoir qu'ils ont coupé l'herbe sous le pied de H1Z1 qui, pour le coup, voulait faire un standalone sur le même mode de jeu.
Exactement.
Et donc ils sont un peu fait niquer.
Alors, là où je vais mettre un bémol, par contre, c'est que, on est d'accord, l'équilibrage, ça va monopoliser l'attention des développeurs. Et j'espère vraiment qu'ils ont bien prévu leur coup, parce que tout le temps qu'ils vont passer à équilibrer le multijoueur de Ark, c'est autant de temps qu'il va pas être consacré au solo.
Je suis assez d'accord.
Bon, après, Ark, normalement, je crois qu'il doit sortir dans pas si longtemps
que
ça sur Xbox One.
Mois de juin, ouais.
Voilà. Donc, la sortie console, a priori, il faudra qu'il soit super polish. Donc normalement d'ici le mois de juin ça devrait aller normalement et ils pourront se consacrer au multi derrière, mais par contre ce qui me fait peur c'est que du coup que le solo soit un peu abandonné quoi après en fait.
Mais non, ils ont fait un super mode histoire pour le solo maintenant.
Et jusqu'à maintenant c'était un peu la force du jeu, c'est-à-dire que on l'a souvent dit ici, pour moi c'est un modèle entre guillemets pour ce qui est des early access Ark, et peut-être que ce modèle, entre guillemets, va être un peu écorché parce qu'ils vont devoir disperser leur attention, quoi. Voilà.
Après, ils avaient annoncé que de toute façon, depuis le début donc d'année 2016, ils se concentreraient plus sur ce qui est équilibrage et optimisation plutôt que sur l'ajout de nouveaux dinos, de nouvelles constructions, etc. Donc après, voilà, le fait de faire en plus ce mode-là à côté, ça va leur demander beaucoup plus de boulot. Mais c'était entre guillemets prévu qu'ils passent moins de temps sur l'ajout de voilà l'ajout de contenu plutôt que sur l'équilibrage et l'optimisation.
Donc en gros le multi c'est vraiment la perspective long terme du jeu.
Après ça va l'un dans l'autre parce que c'est vrai que même en solo il y a des trucs qui sont pas logiques. Par exemple il y a certains dinos volants qui permettent d'attraper d'autres dinos et des fois on peut attraper des gros dinos on sait pas pourquoi, des petits on peut pas les attraper. Il y a certaines choses qui sont pas logiques. Donc je pense que ça va être un équilibrage qui va se faire autant pour le solo entre guillemets et le multi parce que c'est pas vraiment du solo mais voilà.
Ok. On s'arrête là messieurs, on enchaîne.
Ouais.
Nous allons maintenant évoquer le nouveau RPG d'Obsidian. Le nouveau RPG d'Obsidian. Désolé. Le nouveau RPG d'Obsidian s'appelle
Tyrannie.
Oh merde, Tyrannie, voilà. Donc, alors après un trailer, franchement, qui était tout pourri, je vous avoue que sur le coup, quand j'ai vu le trailer, j'ai fait mais c'est quoi cette merde. J'ai vu les screenshots après et là j'ai été rassuré. Donc en gros, le pitch, vous allez avoir un RPG qui est inspiré de Midnight, tout simplement. Alors Midnight, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de rôle papier où l'idée de base c'est et si vous jouiez dans un univers où Sauron avait gagné. Donc, dans un univers où il y a que des connards. Vous allez jouer un connard, voilà, ça c'est dit. Et vous allez soit jouer un connard qui sera droit, ou vous allez jouer un connard qui sera tyrannique, tout simplement. Vous allez incarner l'un des lieutenants du gros méchant qui a détruit le bien dans cet univers, parce que c'est vraiment un univers où le bien a perdu. Et voilà, donc ça c'est le pitch de base. Et déjà... je trouve ça super sympa parce que, alors certes, bon, chez Obsidian, ils se la pètent un peu, ils font genre, tu vois, c'est un concept original, alors que non, enfin, je veux dire, les mecs, vous avez pris Midnight et vous avez fait un copier-coller, hein, c'est tout. Mais, en tout cas, c'est quelque chose, à ma connaissance, qui a été rarement fait, voire pas du tout. En tout cas, j'ai pas de souvenir d'un jeu, enfin, d'un RPG occidental où c'est le mal qui a gagné et tu commences à partir de là, quoi. Et ça, déjà, l'univers... ça me plaît énormément. Ensuite, visuellement, j'accroche totalement. Enfin, les quelques visuels disponibles qu'il y a, il y a certains tableaux, enfin, c'est juste sublime, quoi. Notamment, il y a un tableau où t'as des espèces d'ossements qui sortent du sol et tout. Enfin, c'est vraiment magnifique, quoi. Enfin, il y a une ambiance glauque à souhait qui ressort du truc. En plus, tu sens bien l'univers où il y a eu de grosses batailles, tu vois, complètement desséchées. Enfin, voilà, ça, le mal à gagner, ça se voit, quoi. Bon, par contre, pour être très honnête, après ça, le jeu, on n'en sait pas grand-chose. On se doute qu'a priori, ce sera, ils vont reprendre le système qu'ils ont développé sur Pillars of Eternity. J'espère juste quand même que c'est un jeu qui sera beaucoup moins basé sur les combats que Pillars et qui sera beaucoup plus basé sur les dialogues, un peu à la Tourmente, quoi, qui va sortir bientôt. Bref, une affaire à suivre, et je sais pas pour vous, mais moi, je... voilà. Bon, ok, je suis un fanboy Obsidian, mais quand même, le pitch de base m'a hype sérieusement.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Franchement, il y a de quoi faire en fait avec un concept pareil. Là, pour le coup, c'est vraiment un pitch qui met le joueur vraiment au centre du cœur décisionnel du RPG en fait. Donc, il faut faire très attention à ce que niveau scénaristique et niveau enjeu, ça suive derrière en fait, pour pas que ça soit décevant.
Alors, il y avait un jeu qui te mettait un peu dans cette position-là. Ça s'appelait Inquisitor.
Mm-hmm.
Et le nom, enfin, je veux dire.
Oui. Parle pour lui.
Il parle pour lui, oui, c'est ça. Où tu pouvais potentiellement jouer un gros connard très fanatique, voilà, c'était très intéressant. Et pourquoi justement j'insiste sur le fait qu'il y aura peut-être plus axé sur les dialogues ce jeu-là, parce que justement moi c'est ce qui m'avait fait lâcher Inquisitor, parce que autant j'adorais le concept de base, quoi, j'adorais l'ambiance, autant c'était un jeu où il y avait énormément de combats. Et je trouvais en fait que ça t'éloignait vraiment du focus qui était ok, je suis un inquisiteur et je vais enquêter sur des trucs, quoi. Et comme la partie combat était pas forcément géniale non plus, ça m'avait vraiment fait lâcher l'affaire, quoi, au final. Ben, notre amateur de RPG, qu'est-ce que j'ai ajouté?
Non, bah c'est voilà, pour l'instant on en sait pas grand-chose, mais les visuels sont vraiment sympas. Le concept, comme tu l'as dit, en termes de jeux vidéo, ça a été que très rarement fait ou quasiment pas. Donc, attendons de voir, mais ça peut être une bonne surprise, oui.
Bah, tu vas garder la parole, Ben.
Ouais.
Parce que tu vas nous parler du PlayStation VR, n'est-ce pas? Alors, cette semaine, il y a eu la GDC, ça ne vous aura pas échappé, et on nous a parlé de la VR. Alors, personnellement, j'ai pas été super emballé, je vous avouerai, mais en tout cas, Sony a apporté des précisions sur son futur casque, et notamment, on connaît enfin le prix.
On connaît le prix et la date de sortie. Donc le casque sera disponible au mois d'octobre 2016 pour 400€.
Ce qui est beaucoup moins cher que la concurrence, si je puis vous
voilà, permettre. Voilà, ben, la moitié, enfin je crois qu'il y en a un qui a l'Oculus Rift est à 700 et 900 pour le HTC de Steam. Donc largement moins cher. Alors, il y aura a priori un bundle. Pour l'instant, il a été annoncé qu'aux États-Unis où il y aura en plus la caméra et les PlayStation Move, histoire de les refourguer que voilà. Mais alors moi... enfin, je suis pas plus que ça attiré par la VR, j'ai une PS4, mais ils ont fait en tout cas une ou deux choses qui sont très malin pour moi, c'est déjà le prix. Alors, le casque est certainement moins bien que l'Oculus ou le HTC.
Oui, Mamie Lamy confirme.
Voilà.
Ouais, je précise, notre ami Mamie, qui, donc, est développeur et qui est au Canada, n'est-ce pas, pour terminer ses études, nous a dit qu'ils étaient mignons chez Sony, mais que bon, ça valait pas grand-chose. Dixique, <Ouais. que> Mamie.
Même à 400 balles, c'était déjà cher.
Voilà.
Après, l'avantage qu'il a, c'est que t'as une PlayStation 4, t'es sûr de pouvoir l'utiliser. À l'inverse d'un Oculus ou d'un HTC qui, si t'as pas un PC assez récent, tu ne peux pas. Donc déjà, ça, c'est un gros point fort pour moi. Bah, après, il faut voir voilà, si le casque est vraiment pourri, 400€, ça sera peut-être trop cher, je dis pas le contraire. Mais ça
alors,
a l'avantage...
Alors, je précise que ils disent bien que le rendu, ce sera des jeux PlayStation 3, pour le coup.
Ouais.
Parce que, vous le savez, la VR, il y a deux images affichées, donc du coup, ça prend plus
voilà.
de puissance.
Et en plus, là, il y a
donc,
un petit boîtier...
forcément, le rendu va en prendre un coup.
Il y a un petit boîtier qui se mettra entre la PS4 et le casque, entre guillemets, pour faire le relais. Parce que, voilà, on sait pas si c'est un terme de puissance ou si je le relais, le streaming de l'image, on sait pas trop. Mais il y a un autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est la possibilité, entre guillemets, de jouer à plusieurs malgré le casque. C'est-à-dire que on pourra, je sais pas si les autres le proposent, mais sur la PlayStation, il y a un joueur qui pourra avoir le casque et sur certains jeux, ceux qui le l'intégreront, il pourrait y avoir un second joueur qui verra l'écran sur sa télé de façon normale, quoi. Et ça, ça permet d'éviter de faire l'autiste avec son casque, on va dire.
Ça permet de faire du gameplay asymétrique, surtout.
Ouais.
Grâce à ça, en fait, t'en as un qui fait l'autiste et l'autre qui se fout de sa gueule.
Aussi.
Donc, c'est parfait.
Et l'autre qui le filme en attendant, c'est ça. Non, après, on n'en sait pas beaucoup plus sur les possibilités.
Enfin, si, les jeux, ils en ont monté vite fait.
Ouais.
Mais, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais bizarrement, c'est tous des jeux où tu bouges pas beaucoup, quoi.
Oui, bah.
C'est-à-dire,
oui.
c'est des rail shooters. Enfin, la VR va refaire émerger des genres qu'on pense disparus, tu vois. Ouais. Je sens bien venir le time crisis de la PlayStation 4, okay. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, pour le moment, les développeurs savent pas trop quoi en foutre de la VR et du coup on a les concepts auxquels on s'attendrait, à savoir que voilà, c'est à la première personne forcément.
Bah,
voilà.
Bah, après c'est toujours pareil.
Un truc à moindre coût, quoi.
Voilà, ouais, les devs aujourd'hui ils vont pas, on a déjà parlé avec les autres casques, mais là ça va être le même problème. Tant qu'on sait pas si ça va un petit peu se vendre ou un petit peu prendre, les gros studios vont pas investir masse d'argent pour faire des jeux ultra adaptés à ça pour l'instant, quoi. C'est voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est une... Là, on va arriver avec cette année à une première génération de casques où ça va être une sorte de test du marché, de voilà, de tout ce qui va avec. Et si ça prend, on peut s'attendre dans les prochaines années, par contre, à des choses plus abordables, plus adaptées, etc.
Je suis curieux de voir combien un jeu VR va coûter, en fait.
Ah, ouais.
Parce que là, le PlayStation VR, bon, certes, il est beaucoup moins cher que ses concurrents. Ça reste 400€ quand même.
Oui, c'est quand même le prix de la PS4, quoi.
Combien du coup pourrait coûter un jeu réalité virtuelle ? Parce qu'il faut que ça soit du coup assez peu cher pour que les gens puissent en prendre quelques-uns.
Mm-hmm.
Donc ouais, ça c'est une, enfin voilà, c'est une question que je me pose.
Bah, surtout que sans vouloir être méchant, les jeux qu'on a vus jusqu'à maintenant, ça fait quand même petit jeu, quoi, entre guillemets.
Ça fait très snack gaming, quoi.
Ouais, ça fait voilà, un peu les jeux qui étaient avec la Wiimote ou je sais plus quoi au début, quand la Wii est sortie, la première Wii, les petits jeux, le bowling, les trucs comme ça, quoi.
Mais c'est exactement ça, quoi. je suis heureux de voir que je suis pas le seul à avoir pensé au motion gaming, quoi. Et c'est ça qui me fait peur, en fait. Pour le moment, tout ce que je vois me rappelle le motion gaming. Y compris le prix aberrant. Qui fait qu'à mon avis, alors certes, la promesse sur le papier, elle est très belle, mais, enfin, quoique quand tu vois les jeux pour le moment, elle est pas si belle que ça, mais, enfin, moi, personnellement, c'est pas ces jeux-là qui vont faire débourser 400 boules, hein, je le dis tout de suite. Mais, derrière, il faut les sortir les 400 balles, quoi. Ou les 500 balles, je crois, parce qu'il y a un bundle aussi, PlayStation Move. Faut le vouloir quand même, quoi. Enfin, je veux dire, la PlayStation 4, elle est pas donnée à la base quand même, quoi. C'est 400 balles, déjà. Une PlayStation 4.
Ouais. Pour quelqu'un qui veut tout, ça lui aura coûté 1000€, quoi.
Voilà, c'est ça.
Juste pour du hardware. Hein.
Ah ouais, oui, voilà. Et après, faut sortir la thune pour les jeux. Des jeux qui, si ça se trouve, vont être sympas 5 minutes, et après, tu vas te rendre compte que, oui, voilà, bon, c'est sympa, mais quand des expériences un peu plus profondes... Enfin, voilà, il y a plein d'énigmes autour de la VR, et enfin, pour moi, vraiment, la clé du truc, c'est que, est-ce que les jeux vont vraiment être sympas, ou est-ce que ça va être du snack gaming, comme on a l'impression pour le moment ? C'est ma partie, j'ai l'impression.
Bah, je pense que pour, de toute façon, voilà, pour cette première génération, faut pas s'attendre à des trucs de folie, que ce soit en termes de hardware, même si certains casques ont l'air assez évolués, mais Et puis en termes de jeu non plus, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, et on a encore quelques années à attendre avant d'avoir vraiment des choses ultra évoluées, quoi. Bon, à voilà. Voir.
Enfin bref, c'est toujours le même discours sur la VR, hein. Où est le public pour la VR, tout simplement.
Yes, can,
voilà. Ou est-ce que c'est juste une niche de niches de joueurs qui ont des thunes pas possibles à dépenser pour se payer un casque qui vaut une fortune, quoi.
Non, mais tu sais que s'ils vendent ne serait-ce qu'à 1% de leur base installée de PS4,
bah oui.
Donc ça fera genre 320 000 VR écoulés, et ça fera genre 144 millions de dollars de bénéfices, tu vois. Donc bon, juste 1%, ça va.
Ouais, sauf que le casque, est-ce qu'ils le vendent à prix coûtant, tu vois? Parce que moi,
oui,
je le rappelle,
oui, bien sûr.
Oculus, ils ont bien dit que le casque était vendu à prix coûtant. Ouais, alors c'est quand que tu fais de la thune? Sur les jeux?
Ouais, c'est sûr.
Si c'est sur les jeux, quel prix vont coûter les jeux? Tu vois? Enfin, il y a plein de questions qui se posent, en fait. Et c'est bien gentil de vendre des casques, mais derrière, il va falloir les vendre, les jeux, quoi. Et j'ai très peur qu'en fait, ils en vendent au début, tu vois, et que derrière, ça s'essouffle parce qu'il n'y aura pas la ludothèque qui fait rêver. Et c'est ça le problème. Et pour le moment, en fait, ce que je trouve regrettable dans la démarche de Sony, c'est que j'ai pas vu la killer app. Et pour moi, il fallait commencer par ça, en fait. Certes, ça demandait des investissements, mais il fallait commencer par ça.
Ouais, ils se sont dit que le prix suffirait, en fait.
Et j'ai peur que ça fasse un épiphénomène, quoi, finalement.
Oui, tout à fait.
Morvan. Tu vas nous parler de la suite, n'est-ce pas? Et la suite, c'est Nintendo. Nintendo qui a visiblement des gros problèmes pour gérer les différences de hardware entre la New 3DS et l'ancienne 3DS.
Ouais, alors bon, ça peut paraître, on va dire, un épiphénomène pour la France, mais il y a le portage 3DS de Hyrule Warriors qui sort d'ici quelques jours, le 24 mars. Et donc c'est donc le portage d'un jeu Wii U, vous savez, c'est le Musou dans l'univers de Zelda, sorti d'abord sur Wii U et porté dans quelques jours sur 3DS. Le problème, c'est que voilà, comme les Japonais l'ont noté et les Américains avant nous, et ben sur 3DS normale, donc la toute première 3DS qui est sortie en 2011 de mémoire, et ben ça fonctionne pas bien, mais pas bien du tout. C'est-à-dire qu'au niveau des FPS, on est largement en dessous des 30. Il n'y a pas du tout l'option 3D. Bon. Après, c'est pas comme si c'était...
Ouais, la 3D, j'ai envie de dire, c'est pas une grosse perte. Hein.
C'est pas une grosse perte, mais bon, pour le coup, la fluidité dans un Musou, voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, voilà, sur New 3DS, par contre, ça marche nickel, étonnant, mais sur Old 3DS, ça marche pas du tout. Et à tel point que, alors, c'est un journaliste de Destructoid, je crois, oui, c'est ça, qui dit tout simplement... Je n'ai pas fait le premier stage, tellement ça m'a gonflé.
Ouais.
Donc c'est dire à quel point
c'est mal optimisé.
C'est criant. Et du coup, c'est à se demander pourquoi Hyrule Warriors Legend n'est pas un des rares jeux avec Xenoblade Chronicle X, non?
Non, c'est Xenoblade Chronicle, enfin le premier.
Ah oui, Chronicle X,
qui est la suite.
Voilà. Ouais, c'est à se demander pourquoi Hyrule Warriors Legend n'est pas du coup un des rares jeux à être uniquement New 3DS. Parce que pour le coup, ça serait beaucoup moins mensonger. Alors effectivement, le jeu fonctionne hein, sur Old 3DS, mais
oui, hein, il a fonctionné et être jouable, quoi.
C'est ça.
Et vous voyez, le fait que ça vienne de Nintendo, alors que quand même c'est une boîte normalement qui est connue pour la très bonne optimisation de ses jeux, etc. Ça me fait peur parce que je reviens à la news qu'on avait évoquée sur Microsoft, ce qui me permettra d'enchaîner ensuite sur la news qu'on va évoquer après. À savoir l'évolution du hardware. Je vous rappelle, Microsoft a des projets, n'est-ce pas, de faire évoluer le hardware de sa console de salon. Et tu vois, ce genre de problème-là, si ça arrive à Nintendo, je me dis, mais qu'est-ce que ça va être si les deux autres constructeurs se lancent sur ça, sur des hardware évolutifs, dans les années à venir? On va avoir les mêmes problèmes? On va voir des jeux qui seront pas optimisés pour les anciennes consoles. Là, on a l'illustration parfaite. On a une boîte Nintendo qui est connue pour l'optimisation nickel de ses jeux, d'une manière générale. Et là, on a ce jeu-là qui est une purge. Je veux pas faire mon pessimiste, mais est-ce que l'évolution du hardware, c'est vraiment quelque chose qui est souhaitable pour les consoles de salon? Et ce, d'autant plus que, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, Sony, apparemment, actuellement, serait en train de plancher sur un projet similaire à celui de Nintendo, à savoir une PlayStation 4.5. Alors, c'est des rumeurs qui nous viennent de Kotaku, donc à prendre avec des grosses pincettes, hein, c'est Kotaku, je veux dire. Mais apparemment, ils disent qu'ils auraient plusieurs sources fiables qui diraient que ils ont été contactés par Sony, qui les aurait briefés sur une nouvelle PlayStation 4, qui serait plus puissante que l'ancienne. Ça ferait sens, parce que comme Sony veut se lancer dans la VR, avoir une PlayStation 4 un peu plus puissante, ça permettrait d'afficher des jeux beaucoup plus fluides, et peut-être même plus jolis. Et là, moi, j'ai très envie, je sais pas pour vous, de freiner des quatre fers, parce que quand je vois ce qui se passe là justement avec Hyrule Warriors Legends, alors entendons-nous bien, oui, c'est un petit jeu, mais le fait que ça vienne de Nintendo, tu vois, moi ça m'inquiète très fortement.
Oui, parce que généralement Nintendo, ils sont pas, c'est pas des habituels qu'on nous dise que voilà qu'il y a des problèmes sur d'autres trucs, mais Nintendo, c'est pas trop leur genre, comme tu l'as dit, quoi. Après, moi, l'histoire de cette PS4.5, c'est pas une bonne idée. Alors après, je pense que comme toi, que c'est que si ça se fait, c'est vraiment pour la VR, parce que voilà, parce que pas assez puissante pour tous les jeux peut-être, et peut-être aussi que c'est pour ça que pour l'instant il n'y a pas de jeux vraiment de gros jeux d'appel.
Ce qui fait peur, hein, tu noteras sur l'optimisation des jeux VR, hein, se dit en passant.
Ouais.
Parce que s'ils ressentent le besoin urgent de sortir une PS4.5, voilà quoi.
Mais après, ouais, moi je suis pas pour l'upgrade, on va dire, des consoles, parce que justement c'est ce qui différencie aujourd'hui vraiment les consoles d'un PC. C'est que les joueurs qui jouent sur console, c'est pour pas se prendre la tête, pour l'avoir dans le salon, pour qu'elle soit jolie sur un petit meuble et de pas y toucher, quoi. C'est vraiment, si tu veux bidouiller, entre guillemets, ben, tu te prends un PC, tu l'as dans ton bureau et c'est un peu différent. Donc ouais, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle, tout ça.
Mais surtout qu'en fait, moi, je comprends pas cette évolution du marché, parce que elle arrive à une époque où elle n'a plus de sens. Je sais pas si vous avez suivi l'actualité hardware sur PC, mais on n'est plus à l'époque où au bout de 6 mois, ton PC était dépassé. Cette volonté de sortir des hardware, imaginons, je sais pas moi, tous les ans ou ce genre de choses, pour moi, elle n'a plus de sens aujourd'hui, quoi. Sur mobile, elle peut avoir du sens à cause de la miniaturisation, tout ça, tu vois. On a des devices de plus en plus petits, de plus en plus puissants, voilà. C'est logique que sur mobile, il y ait une évolution du truc. Mais sur console, pour moi, ça n'a aucun sens, quoi. Mais vraiment.
De toute façon, concrètement, moi, ça m'intéresse plus les consoles, en fait. Enfin, en tout cas, les consoles de salon. Non, mais ça fait un moment, d'ailleurs, hein, que je suis passé sur PC et que j'ai plus du tout allumé ma PS3 en dehors de pouvoir lancer un Blu-ray, quoi. Et tu vois, ça, j'en suis arrivé à un point où même les exclus consoles, en fait, elles me font même plus baver.
Je pense que c'est dû aussi au fait, mon cher Moral, qu'on a tellement de jeux à faire.
C'est ça.
Que finalement, on ne ressent plus le besoin.
Ouais.
Sauf vraiment si, tu vois, t'as le jeu. Comme moi, oui. Par exemple, avec Xenoblade Chronicles X, où j'avais absolument envie d'y jouer, tu vois.
Ouais.
Du coup, ça m'a fait acheter la console. Et encore, ça m'a fait acheter parce que j'avais les moyens de la choper.
Oui, parce que c'était une Wii U, c'était pas une PS4 non plus que t'as acheté, voilà, quoi.
Oui, non, mais surtout, je l'ai payé 90 balles, tu vois. Enfin,
ouais, ça a mis 400 boules pour un jeu dans une PS4, quoi.
Même déjà 200€ pour y jouer, je les aurais pas sortis. Hein,
ouais.
S'il avait fallu sortir 200€, mais jamais de la vie, quoi. Pour un jeu, c'est totalement irraisonnable. Mais, en fait, on est tellement submergé par les jeux que moi, je suis un peu comme Morgan, c'est-à-dire que même les exclusivités console, finalement, à moins que ça soit vraiment, extraordinaire, c'est pas ça qui va faire débourser 400 balles pour ça, quoi.
Ouais, et pourtant, j'adore Uncharted, tu vois, et Uncharted 4, tu voulais, effectivement, il est beau, il est magnifique, il est tout ce que tu veux, mais voilà, cette année, je n'arrive pas à me hyper sur Uncharted 4, quoi. Parce que, voilà, je sais que c'est un jeu auquel je ne jouerai pas, en fait.
Voilà. Bon, après, ça, c'est nos préférences à nous, hein. On sait, ouais, bien évidemment, qu'il y a des gens qui n'envisagent pas d'aller sur PC pour tout un tas de bonnes raisons. Voilà.
Ouais.
Et justement, ces gens-là, ils ne veulent pas aller sur PC. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est un hardware qui évolue tout le temps, des fois c'est quand même assez pénible d'installer certains jeux, problème de driver, tout ça,
c'est
enfin
ça.
Voilà, ce genre de choses. Et ils ne veulent pas se prendre la tête sur console. Or, si on commence à leur sortir des consoles, comme la Nintendo 3DS, où t'as certains jeux qui vont tourner à la piste parce que ta console elle est vieille, je suis pas sûr que ce soit le meilleur argument de vente pour ces gens-là, hein, personnellement.
C'est clair.
À mon avis, ces gens-là, ils veulent une console qui est super bien optimisée, avec des jeux, voilà, qui tournent nickel. Tu lances, ça marche, très bien. Point. Et si tu retires ça aux consoles, bah tu retires la spécificité des consoles, tout simplement. Mmh. Bon, messieurs, je vous propose que on passe au chapitre final de ce podcast, à savoir l'énorme pavé qu'a lancé Microsoft dans la mare cette semaine, mon cher Morwan. Et si ça se fait, franchement, ce serait cool, quoi, par contre.
C'est marrant, c'est fin de podcast très console centré. Donc c'est voilà.
Bah ça nous concerne pour le coup aussi. Hein.
Ouais, c'est clair. en fait, Microsoft a dévoilé ses plans en fait pour le cross-platform. Alors rappelons qu'est-ce que c'est le cross-platform. C'est pouvoir jouer à un même jeu avec quelqu'un qui n'est pas sur la même console ou le même PC que toi. C'est-à-dire que concrètement, bah voilà, le premier jeu qui va être concerné par ça sur Xbox One, c'est Rocket League, évidemment.
Oui. Vous savez, on se posait la question, est-ce que ce sera que des joueurs Xbox et PC, ou est-ce qu'ils vont faire les choses intelligemment et on pourra enfin jouer tous ensemble, et visiblement, ça sera le cas.
Voilà, en gros, Microsoft tend la main à la PlayStation, enfin à Sony, pour faire en sorte que l'intégralité des joueurs de Rocket League puissent jouer entre plateformes, c'est-à-dire qu'un joueur Xbox One pourrait jouer avec un joueur PC, qui pourrait jouer également avec un joueur PS4. D'ailleurs, juste petite parenthèse, normalement, entre PC et PS4, c'est censé être possible. Je rappelle qu'avec Ben, qu'on n'a jamais réussi.
Actuellement, tu peux tout à fait jouer avec des joueurs PlayStation 4, c'est le cas. Moi, ça m'arrive très souvent de jouer avec des joueurs PlayStation 4, mais par contre, ce qui est chiant sur Rocket League, enfin avec le système de lobby, tu ne peux pas spécifiquement choisir ton ami qui joue sur PlayStation 4, en fait.
D'accord.
Voilà, c'est ça qui est chiant. Mais par contre, si, hein. Oui, il y a, y a plein de joueurs sur PlayStation 4 avec qui tu joues hein, sur Rocket League. Hein,
bon, d'accord. Alors ça me, bon, ça me rassure, même si pour le coup c'est toujours pas ce que je veux. Mais ok.
Et après, donc, on n'y a pas joué depuis un moment. Peut-être que ça change depuis.
Oui, peut-être. Ouais. Donc voilà, ça y est. Donc main tendue de Microsoft à Sony. Bon, après c'est logique quand t'es le deuxième constructeur du marché de dire, hey mec, tu veux pas me
Tu veux pas me filer un coup de main?
Tu veux pas me filer un coup de main? Et donc, évidemment, on attendait avec impatience la réponse de Sony, qui n'a pas tardé. La réponse de Sony était quelque peu laconique, en fait. C'était, oui, alors PlayStation a soutenu cet effort de cross-platform depuis 2002 avec Final Fantasy XI, et puis derrière, on nous dit, oui, on serait heureux d'avoir cette conversation avec n'importe quel éditeur ou développeur qui serait intéressé avec la fonction cross-platform. Et là, c'est intéressant parce qu'il ne cite pas constructeur, il dit éditeur ou développeur. Et là, tu te dis, il y a quelque chose qui... Il y a anguille sous roche. il y a hippopotame sous gravillon. Et Shuhei Yoshida qui parle avec Eurogamer, enfin, c'est plutôt Eurogamer qui dit, bon, écoute, mec, il faut que tu me donnes une vraie réponse. Et Shuhei Yoshida qui répond, oh, oui, nous sommes engagés... avec les joueurs PC et d'autres éditeurs, et puis après il dit non mais vas-y, cut the shit, donne-moi la vraie réponse. Et puis là il dit, c'est quand même un peu compliqué, hein. Donc parce que le PC est une plateforme ouverte, donc c'est plus direct de le faire, mais connecter deux réseaux qui sont fermés et qui sont différents, donc évidemment le PlayStation Network et le Xbox Live, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué, dit-il. Donc il faut qu'on travaille avec les développeurs et les éditeurs pour comprendre exactement ce qu'ils veulent accomplir. Bon.
Je sais pas, tu à quel moment tu travailles avec Microsoft parce que c'est le premier concerné en fait.
C'est ça. Non mais c'est surtout, je veux comprendre ce qu'ils veulent accomplir. Enfin je sais pas, il te faut un dessin vraiment. et donc évidemment après il continue. Oui, il y a aussi l'aspect technique. Bon. Grosso modo, on a l'impression que Sony est pas forcément chaud pour. Voilà, pour bâtir en gros une expérience cross-plateforme unifiée entre l'Xbox Live et PlayStation Network.
Non, donc, mais en gros, ça va être, à mon avis, démerdez-vous, quoi. Je suis sûr que ça va être ça. C'est en
tout
gros, les développeurs, vous pouvez le faire si vous voulez, mais démerdez-vous. Super, merci. Et après, on dit, oui, on est open à tout ce qui est cross-plateforme et tout. Non, t'es pas open, la preuve. Ouais. Parce que si vous vouliez faire ça en bonne intelligence, je veux dire, vous avez tout à y gagner, quoi. Alors, oui, ok, on pourrait se dire, Sony, c'est eux qui sont dominants sur le marché, c'est Microsoft qui va en profiter, du coup, parce que comme ils ont une base de joueurs moins importante, il y a que Microsoft qui a gagné. Non, je suis pas d'accord. Enfin, je veux dire, un jeu multijoueur, enfin, ce qui fait tourner le truc sur le long terme, c'est la communauté. et la fragmenter comme ça sur plusieurs supports, c'est ce qui tue les jeux multijoueurs. Et tout le monde dans cette histoire a gagné, quoi. Sûr. Merde.
C'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Combien de jeux, en gros, voient leur serveur un petit peu dégarni, alors que finalement, en fait, si tu faisais, si tu faisais rencontrer les joueurs qui jouent à la fois sur PC, sur PS4 et sur Xbox One, pour le coup, il y aurait vraiment une, enfin, possibilité d'y jouer sur le long terme, quoi. Mais le truc, c'est que si tu joues uniquement avec les joueurs qui sont sur Xbox One et qu'il y en a pas beaucoup, bah, derrière, en fait, jamais tu joues, quoi. Et donc, c'est comme ça c'est que, ça. Bah, voilà, par effet boule de neige, bah, il y a plus personne qui joue sur les serveurs de tel ou tel jeu, quoi.
Le nombre de jeux indépendants qui sortent uniquement en ligne, qui meurent au bout de quelques semaines parce qu'il y a personne, quoi.
Bah, moi, je pense à Showdown Effect, par exemple.
Ouais, c'est ça. C'est un jeu absolument génial, mais il y a personne dessus, quoi. Alors que c'est un jeu, franchement, enfin,
oui,
peu qu'on y a joué, on s'est éclaté dessus, quoi. Mais voilà, il y a personne sur le jeu. Alors que là, tu vois, t'aurais une communauté un peu plus grosse qui inclurait les joueurs consoles. Bon, après, on est d'accord, c'est pas non plus quelque chose que tu peux généraliser à tous les genres. Je veux dire, un FPS, par exemple, c'est compliqué, hein. Parce que, je veux dire, en termes de jouabilité, le mec qui a une souris, il est forcément avantagé, tu vois.
Oui, oui.
À moins que tu mettes, genre, des gros handicaps au mec qui joue à la souris et des gros avantages au mec qui joue au paddle, ça va être compliqué quand même.
Tu peux pas faire ça sur tous les types de jeux, mais il y a beaucoup de jeux sur lesquels tu peux. Rocket League est un exemple. On peut citer FF14, parce que toi, tu joues sur PC, mais à la manette, je crois, tu jouais.
Oui, oui, moi j'y joue à la manette sur PC.
Exactement, donc typiquement les MMO, tu peux le faire. Ça fait déjà pas mal de jeux multi auxquels tous les jeux sport, tu peux le faire. Voilà, après, c'est les jeux ultra, où il faut être ultra précis, type FPS, où forcément, entre un stick et une souris, bah, la souris est avantagée, faut pas, voilà. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de jeux pour lesquels ça serait une bonne chose, quoi.
Après, FF14, ça dépend des classes, hein. Moi, par exemple,
oui, bien sûr.
La classe que je joue, normalement, je devrais pas y jouer à la manette.
Oui,
parce que c'est une classe avec des pets et tout, que tu dois gérer. Mais là, pour le coup, en fait, c'est une question de trouver des groupes qui vont bien avec toi, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire des gens qui acceptent que tu joues la manette et que tu sois pas le plus performant machin et que tu acceptes le fait aussi que bah tu seras pas le joueur le plus performant parce que tu as décidé de jouer la manette et que malheureusement avec cette classe-là en tout cas si tu jouais la manette tu es forcément désavantagé par rapport au joueur qui joue avec un clavier et une souris quoi. Mais après c'est toujours la même chose sur les MMO, c'est trouver le bon groupe qui va t'accompagner quoi.
Oui, exactement, parce que moi je jouais une classe DPS corps à corps, j'aurais pu y jouer à la manette sans problème, ça m'aurait pas gêné.
C'est ça.
Donc voilà.
Donc, dans tous les cas, moi, je pense que c'est une initiative qui va dans le bon sens. Et pour une fois, ben merci Microsoft, j'ai envie de dire. Parce que là, pour le coup, ils ont mis Sony face à leur contradiction, quoi. Et là, Sony, ben, ils ont l'air un peu cons, quoi, finalement.
Ouais, c'est bien joué de la part de Microsoft, pour le coup, parce que eux, ils sont en retard en termes de vente de consoles. Donc, c'est vrai que même si ça serait pas énorme, pour eux, ça serait tout bénéfique le cross-platform. Donc là, il dit, bah, allez, on y va. Et là, c'est un peu plus compliqué après de se lancer, quoi.
Bon, vous remarquerez qu'on n'a pas évoqué Nintendo, mais Nintendo, ils sont tellement à part que peut-être quand ils ressortiront la NX, on
voilà,
réévoquera la question.
Après, il y a un problème de puissance de console et de jeux qui sont dessus, donc c'est plus compliqué.
Quoique, franchement, Rocket League, enfin, sérieux.
Rocket League, non, mais même les jeux de foot, voilà, typiquement, ça pourrait. Mais après, les jeux, certains jeux, type MMO, par exemple, c'est pas possible.
Bon, voilà. Messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter.
Non, c'est bon pour moi.
Non, c'est bon.
Bah écoutez, en tout cas, moi j'espère que ça va se faire, parce que c'est ce qui permettrait, en tout cas, d'avoir des grosses communautés sur les jeux en ligne. Alors évidemment, hein, ça va pas sauver les jeux qui feront des bides, quel que soit le support, hein. Mais le jeu en ligne, à mon sens, tout a bénéficié de ce genre de politique-là. Et franchement, si chacun pouvait arrêter de prêcher pour sa paroisse et pour une fois penser un peu sur le long terme, pour le coup, ça serait cool. Allez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, messieurs, dames. Bye bye à tous.
Salut.
Salut.